Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du
Vous Havre. Apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
De retour sur Osmose Radio, chers amis, pour parler, bien qu'une l'heure ne soit pas encore tout à fait tardive, de sujets un petit peu coquins, avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui dans ce spectacle Café Polisson, qui est joué chaque jour à 18h, relâche le lundi, c'est à l'Espace Roseau, rue Pétramal, dans le collège en fait, et c'est pour le spectacle pour lequel je reçois Nathalie Joly. Bonjour.
Bonjour.
Alors, hein, je vous passe les plaisanteries un peu grivoises sur le fait que vous portez très bien votre nom, par exemple. On est professionnel sur Osmose Radio, on ne fait pas ça. Et on va en venir directement à votre parcours, à votre spectacle. Vous êtes là au titre de la compagnie Marche la route, c'est
oui.
ça. Et la route, justement, vous l'avez faite des cabarets parisiens d'antan jusqu'au festival OFF d'Avignon aujourd'hui. Et avec ce spectacle, Café Polisson, que vous représentez à l'Espace Roseau à 18h. Alors vous-même, vous avez un attachement particulier à cet univers du cabaret. Et dans votre carrière, vous avez fait pourtant bien autre chose. Vous avez touché un petit peu du cinéma. Vous avez, à l'origine, vous êtes chanteuse.
Chanteuse et comédienne.
Vous avez fait notamment une école de chant, vous avez un grand prix, je crois.
J'ai un premier prix de conservatoire CNR, d'un conservatoire national de région.
Oui. Ça donne deux bonnes bases, vous me direz. Et vous vous êtes intéressé particulièrement à cet univers du cabaret, notamment vous vous êtes consacré à une artiste de l'époque que, pour ma part, je connais assez mal, Yvette Guilbert.
Oui, j'ai monté une trilogie sur Yvette Guilbert en 10 ans. C'est elle qui a inventé le parler chanté, qui est ma passion, et c'est comme ça que j'ai plongé aussi dans l'univers du cabaret. Le cabaret, c'est d'abord un espace et une relation avec le public, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette forme, mais c'est aussi cette entrée par la forme parler-chanter qui réunit le théâtre et la chanson et le chant, qui sont donc mes deux passions et qui permet d'alterner entre les deux formes du mot dit et du mot chanté. Et Yvette Guilbert, en fait, en est à l'origine puisqu'elle l'a inventé dans les années 1885 à peu près. Voilà, donc je savais qu'à un moment, je m'intéresserai particulièrement à cette dame. Et voilà, j'ai monté un premier spectacle à la demande de la Société psychanalytique de Paris qui a très très bien marché. Et du coup, après, est arrivé un deuxième, puis un troisième spectacle sur les trois périodes de la vie de cette grande diseuse. Et quand le musée d'Orsay m'a commandé donc un spectacle pour accompagner et pour ouvrir la grande exposition Splendeur et misère, image de la prostitution en octobre 2015, on a hésité parce qu'ils avaient vu mon travail sur Yvette Guilbert et puis on s'est dit non, c'est pas la bonne idée parce qu'on va associer Yvette Guilbert à une courtisane ou à une prostituée. Et en fait, elle s'est très fortement opposée justement au style qui associait la séduction et à tort qui perpétrait cette idée que la chanteuse et l'artiste femme est une prostituée ou une courtisane. Ce qui était en fait la réalité à la belle époque.
Ben, disons qu'il y avait des chanteuses, des interprètes de ce milieu un petit peu interlope qui arrondissaient leur fin de mois comme ça tout de même.
Oui, enfin plus qu'arrondir, c'est-à-dire que certaines étaient obligées pour pouvoir payer leurs robes, leurs costumes de scène et leurs charges, elles étaient obligées de finir la nuit avec le client. C'était même écrit dans le contrat. Voilà, donc on s'est dit, on va garder Yvette Guilbert avec quelques chansons comme contrepoint à l'intérieur du spectacle, mais on va écrire un nouveau spectacle, ce que j'ai fait, donc en écrivant Café Polisson, qui est mis en scène par Jacques Verzier, donc avec qui je travaille depuis très longtemps. Et voilà, et on s'est entouré d'un scénographe, Jean-Jacques Gernol, qui a inventé avec nous tout cet espace dans lequel le public, justement, du cabaret se reflète sur les toiles. Voilà, parce que, en fait, c'est un spectacle sur la prostitution, mais aussi sur le café-concert, avec toutes ces attractions qu'on retrouvait dans le café-concert et cette porosité entre le monde de la loge, de la scène et de la chambre. Voilà, c'est toute cette circulation et tout ce monde très particulier du café-concert et de ses coulisses, justement, liées à la prostitution. Et à ce monde de femmes, c'est un monde très féminin. Voilà, c'est tout ça qui m'intéressait et on l'a écrit comme ça.
Alors les références qui nous viennent à l'esprit évidemment sont les tableaux de Toulouse-Lautrey pour revenir un petit peu à l'époque de la fin du 19e siècle. On pense aussi au film La Polonide qui était sorti il y a quelques années à propos des maisons closes. Et vous le rappelez finalement, à partir de ce sujet qui est quand même une affaire des plus privées, l'intimité des maisons closes ou des cabarets, eh bien en fait l'origine en est une commande publique du musée d'Orsay qui date de 2015. C'était dans le cadre d'une de leurs expositions en fait.
Oui, la grande exposition sur la prostitution qui s'appelle donc Splendeur et misère, image de la prostitution, de 1850 à 1910, donc du Second Empire à la Belle Époque. Et nous, on a étendu un tout petit peu le répertoire chanté aux années 20-30, avec des chansons qui sont plus dénonciatrices, justement, qui vont plus au cœur de l'intimité des personnages, notamment Ouvre de Suzy Solidor, qu'on a traité en bossa nova avec la guitare et le bandoneon de Carmela Delgado. Voilà, pour donner aussi des couleurs de voyage, donner cette dimension aussi à la prostitution qui est un enfermement, mais dans lequel aussi avait lieu ce commerce, c'est-à-dire qu'en fait avant tout il s'agit de commerce et d'argent, et ces toutes jeunes filles qui est représentée dans le spectacle par la bande néoniste, voilà, il y avait cette traite des blanches entre Paris et Buenos Aires, donc voilà, elle, Carmela, évoque tout à fait cette jeunesse qui s'efface, et le spectacle se referme là-dessus comme un coup de poing. Enfin, c'est voilà, parce qu'il y a cette splendeur de la Belle Époque, mais qui cache cette misère terrible. Voilà, des femmes qui n'avaient aucune indépendance. Et à la Belle Époque, au XIXe siècle, les femmes n'avaient aucune autre issue pour s'en sortir, quel que soit leur milieu social et leur niveau social. Elles n'avaient d'autre solution pour acquérir une indépendance et s'en sortir que de se prostituer. Donc on a tous les échelons de la prostitution, de la gueuse, de la pierreuse, de la rampardeuse, voilà, à la soupeuse qui racolait dans les restaurants.
Jusqu'au demi-mondaine de la haute
société. Jusqu'au demi-mondaine avec Madame Arthur qui est évidemment, qui exprime cette magnifiquement dans la chanson de Paul de Kock que chantait Yvette Guilbert, qui est la plus connue. Voilà, Madame Arthur qui avait un je ne sais quoi et qui payait ses fournisseurs et ses propriétaires avec son je ne sais quoi. Voilà, et pourquoi le taire, dit la chanson. Oui, pourquoi le taire. Donc, voilà, on ose parler prostitution. On s'est aussi attribué ce langage très, très libre et parfois très cru. Du coup, très drôle, parce que c'est aussi une langue. Et moi, j'aime cette langue. J'aime la langue d'Yvette Guilbert, mais j'aime aussi la langue qui est évoquée dans le spectacle à travers les tarifications, c'est-à-dire toutes ces choses que font ces dames et les prix. Et donc, cette langue circule de façon très libre, très libertine, très drôle aussi. Voilà, on s'en est saisi, mais tout en restant très chic, puisque cette Marcel Lapompe que j'incarne, qui est la maîtresse des lieux, qui est la tenancière du bordel, est quand même très très chic. Et donc j'aime ce mélange entre la splendeur et la misère qui permet de dénoncer les choses, mais sans vulgarité. Voilà, et encore une fois, les chansons sont beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. Il y a une écriture qui est osée et qui plaît aux jeunes aussi. Les jeunes adorent ce spectacle.
Sans vulgarité, disons que moi je suis d'accord sur le principe, mais il y a quand même un langage très cru qui pourrait être assimilé de la vulgarité par les gens les plus chagrins, les esprits les plus chagrins. Je pense notamment à la grande variété de niveaux de langage et de conditions féminines, nœuds au pluriel, qu'on trouve dans votre spectacle, parce que ça correspond aussi à une réalité de l'époque. On a parlé des femmes qui faisaient de l'abattage dans des maisons close pour quelques sous, et aux demi-mondaines comme Cléo de Mérode qui elle se faisait payer des millions pour quelques heures passées dans la nuit. Bref, tout cela existait à la fin du 19e siècle néanmoins, et de fait les niveaux de langage sont un peu à l'avenant. On trouve des chansons avec un langage ou des images pour faire des allusions à ce que vous savez, et de façon assez subtile et poétique. Et puis de temps en temps on trouve aussi des chansons qui font un peu, qui rappellent un petit peu le comique Troupier. Je sais que pour ma part, j'ai beaucoup ri en entendant votre collègue Jean-Pierre incarner au piano une petite comptine comme
l'arrêt,
ça,
oui.
avec des jeux de mots, des calembours, mais tout à fait foireux, à la limite du vulgaire, mais qui sont aussi très drôles. Et moi, j'adore ça parce que je répète, c'est très, une verve très gauloise finalement.
Il y a deux chanteurs du coup dans le spectacle qui incarnent ces auditions qui avaient lieu dans les cafés-concerts. Voilà, avec des chansons effectivement effectivement plus comique troupier, très drôle et voilà, il y a aussi du cinéma comme il y avait des attractions dans les cafés-concerts. Voilà, moi je tenais à cette variété aussi pour pas faire juste un récital toute seule. On est 5 sur le plateau, j'ai des partenaires formidables. C'est vraiment une équipe, Bénédicte Charpia qui est comédienne et danseuse, qui incarne cette figure très androgyne et ce couple aussi avec la patronne comme on en trouvait dans ces maisons closes puisque les femmes vivaient entre elles et elles avaient aussi, il y avait toujours la protégée de la patronne et donc cette évocation aussi du monde lesbien, saphique. Voilà, c'est tout ça, ce sont des choses très importantes pour parler du café-concert et pour parler des bordels à la Belle Époque. Mais il faut aussi s'amuser et rire puisqu'on est au café-concert et donc on a choisi ces deux chansons qu'on retrouve d'ailleurs dans le disque hein, qui est sorti chez Frémo et Associés.
Oui, parce que je précise qu'on peut retrouver le disque avec les chansons que vous interprétez lors de ce cabaret, de ce café Polisson, et on peut le retrouver sur disque à l'issue du concert justement. Voilà. Pour ceux qui apprécient et qui voudraient en savoir un peu plus et aller plus loin et réécouter plus ça un peu plus tard. Alors, ce café Polisson que vous avez, dont vous avez fait l'écriture et qui a été mis en scène par un de vos amis, vous l'interprétez depuis relativement peu de temps. C'est une création relativement récente.
Oui,
depuis
c'est une création.
2015, mais c'est votre premier Avignon, je crois.
C'est notre premier Avignon. On a fait la scène nationale de Château-Vallon, le théâtre Jean-Villard de Suresnes. On l'a joué à Cannes, au Palais des Festivals. Voilà, on a fait quelques dates, le Casino de Deauville. Et on est arrivé pour notre première grande série sur Avignon. Et on sera aussi en mars 2019 au Théâtre de l'Épée de Bois à Paris, à la Cartoucherie de Vincennes, dans la très jolie salle en bois, donc du 4 mars au 3 avril. On est très, très heureux de pouvoir faire des séries. C'est important Avignon de pouvoir jouer longtemps et de se confronter au public d'Avignon. Le cabaret se fait avec le public. Et le public est très content, voilà.
Et d'ailleurs, vous allez, le public, le titiller un peu, le chatouiller en allant dans les allées, justement, dans les rangées, pour provoquer un petit peu hein, les spectateurs, comme le faisaient de façon un petit peu grivoise les filles dans les spectacles de French Cancan, notamment quand elles allaient chercher les spectateurs dans ces fameux cabarets et ces fameux cafés-concerts qui ont cette particularité très française, il semble, puisque depuis le temps que je parle de spectacle de cabaret au Festival d'Avignon, j'ai pu m'apercevoir, et en tout cas beaucoup de metteurs en scène m'ont dit, que dans les autres pays, à la même époque, ça ne se passait pas forcément comme ça. Quand on pense au cabaret, on pense notamment à la grande époque de la République de Weimar en Allemagne, où les cabarets étaient plutôt un domaine de la bourgeoisie, en fait, qui allait s'encanailler. Dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont la culture du burlesque, c'est encore un petit peu différent. Et en France, le cabaret, le café-concert et dans une moindre mesure le milieu du cabaret, étaient des univers de mixité sociale. Et ça, a priori, d'après les historiens et d'après les gens qui sont venus avant vous sur Osmose, pour parler de tels sujets, eh bien, il semble que ce soit une bizarrerie française où les classes sociales se côtoyaient autour d'un même spectacle, autour de la Goulue qui dansait par exemple. Et peut-être aussi que la richesse de la langue qui est utilisée vient d'une situation sociale aussi insolite. Je me demande.
Oui, bon, en même temps, il faut préciser que quand même dans les cafés-concerts français et parisiens, puisque là, c'est quand même un spectacle très parisien sur le Paris de la Belle Époque, dans le public, il y avait très peu de femmes. C'était quand même un public très masculin. Donc ça, c'est quand même une particularité. Après, sur le cabaret allemand, que moi, j'affectionne énormément, parce que
j'ai sur Courtevail, je crois.
J'ai beaucoup travaillé sur Courtevail avec Jacques Verzier. Notre premier spectacle était autour de Courtevail. Le cabaret, en fait, avait cette fonction que j'aime beaucoup, cette fonction politique aussi de dénoncer, dénoncer l'actualité. Donc de rire aussi de ce qui se passait dans le monde politique. Donc cette dimension, elle est très importante. Et dans Café Polisson, on l'utilise aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi l'occasion de dénoncer les travers de la prostitution et de rire des hommes. C'est-à-dire que les hommes sont un petit peu malmenés. Effectivement, il y a ce racolage qui se fait dans la salle. Et du coup, bon, on ne se prive pas pour dessiner quelque chose de masculin qui est qui est un petit peu... Il y a une petite revanche, voilà.
On inverse un petit peu les codes, c'est un petit peu comme le carnaval à l'époque, où on inversait les codes sociaux. Bon, ben, oui. Là, dans un lieu délimité et balisé, on intervertit un petit peu les codes sociaux tels qu'on les subit, en quelque sorte, en dehors de la sphère sociale. Quoi.
Voilà, ça devient du coup un monde un petit peu matriarcal, donc le public masculin se reflète sur le plateau, et voilà, et les femmes mènent la danse, hein. Les femmes mènent le tango, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette dimension aussi dans les arrangements musicaux, parce que quand même les chansons sont très très revisitées. Il y a même deux chansons que je suis allée chercher dans le répertoire des chansons de salle de garde, hein, qui sont quand même très basiques, mais sur lesquelles on a fait des arrangements, soit tango, soit baroque, voilà, pour les réhabiliter, leur donner quand même un rythme et une saveur musicale qui est quand même importante aussi.
Et vous avez revisité le répertoire musical, c'est vrai, et en même temps vous avez interprété et résumé par quelques archétypes les personnages qu'on pouvait trouver dans ces endroits. Je pense aux jolies toilettes que vous arborez, donc la patronne, la petite, encore un peu ingénue, qui fait l'objet de la fameuse traite des blanches entre Paris et Buenos Aires à l'époque. C'était surtout des jeunes femmes juives d'ailleurs d'Europe de l'Est, puisque à l'époque les juifs d'Europe de l'Est fuyaient un petit peu les pogroms et se retrouvaient à Paris, puis quelques années plus tard sur les trottoirs de Buenos Aires. Et enfin ce personnage impressionnant de femme un petit peu androgyne jouée par Bénédicte, qui se retrouvera quelques années plus tard là encore dans les cabarets de l'époque de Weimar notamment. Et parfois ces personnages androgynes étaient carrément des transsexuels, mais vous limitez quand même à cette période de la fin du 19e siècle, et dans les cabarets parisiens, c'est vraiment l'objet du spectacle Café Polisson. Et néanmoins vous prenez quand même quelques libertés. Vous avez cité la bossa nova tout à l'heure, effectivement ça c'est un anachronisme assez savoureux parce que le morceau est joli, mais vous avez retenu quand même à revisiter ce répertoire en l'adaptant au spectacle et au public d'aujourd'hui en somme.
Oui, j'aime qu'il y ait des jeunes gens dans le public parce qu'ils découvrent ce répertoire aussi. C'est très important de transmettre ce répertoire du patrimoine, c'est notre trésor. Et je pense que le parler-chanter n'est rien d'autre que le rap d'aujourd'hui, c'est-à-dire que cette façon d'utiliser l'accentuation, de mettre en avant le sens par un accent déplacé d'une manière ou d'une autre par le choix de l'interprète, c'est le même travail que font les jeunes rappeurs. Et bon, voilà, moi j'aime beaucoup cette forme. C'est aussi l'occasion d'être dans une forme contestataire, dénonciatrice. Voilà, c'est toutes ces formes mixtes, et j'utilise volontairement le terme mixité. La mixité, le mélange, permet de revendiquer des choses et de les contester. Et c'est ce que faisait Yvette Guilbert, c'est ce que font certains jeunes aujourd'hui. Et je pense que c'est une forme extrêmement importante. Et la faire découvrir aux jeunes, c'est très très important aussi. Ça donne une liberté d'expression entre le théâtre et le chant. Et ça abolit ce clivage aussi. Voilà, moi je suis contre tous ces clivages entre le théâtre et la musique, entre la forme musique actuelle et musique du passé. Voilà. J'aime que justement les choses se mélangent et soient remises dans leur modernité, et qu'on entende les textes, qu'on se rende compte que ces textes d'hier nous parlent encore mieux de la réalité, de l'actualité d'aujourd'hui. Et c'est ce que les jeunes perçoivent dans ce spectacle, ça me fait vraiment plaisir.
Pour l'anecdote, vous aviez travaillé un petit peu sur le slam à une époque, non ?
Oui, j'ai travaillé avec des jeunes rappeurs à Marseille en 2015 pour une création sur l'histoire du parler-chanté, justement, d'hier à aujourd'hui.
Au commencement était le verbe, mais il continue aujourd'hui dans des adaptations voilà. un petit peu insolites, mais de manière toujours aussi vivace, comme c'était le cas déjà au 19e siècle. Et vous nous le rappelez dans ce spectacle Café Polisson. Alors, le décor, on a parlé un petit peu du fond, là, bien entendu, de la musique et de votre interprétation avec les autres comédiens, mais le travail du metteur en scène, Jacques Verzier, lui-même est tout à fait honorable, parce que sur le plateau qui a plutôt la taille d'un boudoir, eh bien avec différents éléments du décor, on se figure un cabaret qui est quand même un endroit un peu plus vaste, avec une penderie qui défile, avec une petite coulisse où vous disparaissez de temps en temps, et votre collègue le pianiste sur le côté, comme le sont souvent sur les pianistes sur scène. Et aussi la costumière a fait un très joli travail, puisque vous avez les toilettes d'époque, et on est vraiment tout tout de suite de plein pied dans l'univers de l'époque. À la rigueur, vous nous en tirez de temps en temps par rapport aux arrangements des morceaux.
Oui, parce que quand le musée d'Orsay m'a commandé ce spectacle, j'ai eu la chance d'avoir du coup toutes les photocopies des peintures qui allaient être exposées en avant-première et avec Jacques Verzier et Claire Sterucci, donc qui a dessiné les costumes, Jean-Jacques Gernol qui a fait le décor et la scénographie. On s'est réunis et on s'est vraiment inspiré des peintures pour tout ce qui est visuel, mais aussi plus que ça, c'est-à-dire aussi pour les attitudes. Un moment de toilette, un moment d'intimité, la buveuse d'absinthe. Voilà, on retrouve tous ces personnages dans les tableaux de Renoir, de Degas, de Toulouse-Lautrec, de Picasso. Voilà. Donc on a eu tous ces maîtres pour rêver ce spectacle. Et Jean-Jacques Gernol, donc, qui a fait le décor, lui, vient du cinéma. Et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité travailler avec lui. Moi, je le connais depuis très très longtemps. Il navigue entre le théâtre et le cinéma et du coup il était à même d'aménager tout le hall aussi du musée d'Orsay, c'était la demande. Et pour Avignon, on a tenu à garder quand même si on joue dans un endroit beaucoup plus bas de plafond évidemment que dans les théâtres habituels. Normalement c'est un décor qui se déploie encore plus sur 5 mètres de hauteur, etc. Mais on voulait vraiment garder la beauté visuelle de ce travail qui sert d'écrin aussi au spectacle. Et puis Claire Sterucci, on a travaillé plusieurs fois ensemble, c'est une formidable costumière qui donc s'est inspirée aussi de documents historiques. Mais même pour écrire le spectacle, j'ai eu accès aussi aux livres de Corbin, de Lola Gonzalez, La capitale du plaisir, tous ces livres sur la prostitution qui sont des livres précieux, historiques. C'est très compliqué de comprendre la prostitution au 19e siècle parce que les lois changent tous les deux ans. Donc on est très vite perdu, on a vraiment besoin de s'appuyer sur les historiens qui font un travail essentiel. Et je pense que...
Toutes les femmes de l'époque n'étaient pas dans la situation de casque d'or, mais le fait que les lois aient changé aussi souvent, ça je l'ignorais.
Oui, ça a changé très souvent, d'où aussi toute cette multiplicité de vocabulaire pour nommer toutes ces dames.
Les pierreuses, je l'ai découvert dans votre spectacle.
Voilà.
C'était celle qui arpentait la pierre du trottoir, en fait.
Absolument, qui use les pierres à force d'arpenter le trottoir tous les soirs. Et donc, on les appelait les pierreuses. Elles étaient aussi, souvent dans les remparts, etc.
Parce que les fortifs, c'était ces zones des fortifications du milieu du 19e siècle, oui, autour de Paris, donc les forteresses qui ont été abattues après. Mais il en restait des fossés, etc. C'était des zones un peu de non-droit, où allaient les apaches, hein, les fameuses racailles de l'époque, oui, les voyous, et notamment les femmes qui les accompagnaient, qui étaient souvent leurs prostituées, hein,
oui,
puisqu'ils ne rechignaient pas à être macro. On pense tout à l'heure, enfin à l'instant, je citais Casque d'or, bien entendu, qui était magnifiquement interprété au cinéma. Et voilà, et donc je voulais, vous l'avez un petit peu suggéré, mais je voulais conclure sur ce sujet, c'est que c'est toutes ces chansons écrites ou inspirées par des femmes de l'époque et des femmes qui elles-mêmes faisaient ce dur métier, parce qu'il s'agit d'un métier, quoi qu'on en dise, eh bien, ça donne aussi un point de vue précieux, vous l'avez rappelé, sur la condition des femmes de l'époque en général et des prostituées en particulier. On a quand même, bien que l'histoire, les historiens de l'époque des annales aient fait beaucoup pour qu'on ait le point de vue des petites gens et pas seulement des rois des puissants sur les événements historiques, eh bien c'est toujours pas facile d'avoir le point de vue et des femmes en général et de certaines situations sociales que l'on n'aime pas évoquer pour des raisons de préjugés ou bien de misère sociale. Et donc les prostituées sont un petit peu à la convergence des deux, et c'est donc d'autant plus, ce répertoire de chansons est donc d'autant plus précieux à mon sens, ne serait-ce que pour des raisons sociologiques et culturelles.
Oui, de chansons et de textes, parce qu'il y a quand même aussi intégré des lettres, par exemple, justement, que j'ai trouvé chez ces historiens, des vraies lettres de prostituées avec un langage très, très populaire. C'est quand même un spectacle très populaire aussi. Et les lettres, il y a une lettre d'une femme qui est emprisonnée à Saint-Lazare, parce que ça parle aussi quand même du péril vénérien, de la syphilis, etc.
C'était la grande époque de la syphilis.
Oui. Voilà. Alors ça, c'est le côté un petit peu noir. Mais en même temps, ce qui est très important, et je tiens à le souligner, c'est d'ailleurs la grande arme d'Yvette Guilbert et des diseuses de cette époque, des chanteuses diseuses, c'est l'humour. C'est l'humour, d'ailleurs, qui a séduit Freud, qui était fasciné par Yvette Guilbert.
D'où la commande de la Société française de psychanalyse.
Voilà, au départ.
J'avais pas compris, d'accord.
Voilà. Mais cet humour, c'est une arme essentielle, et c'est une arme féminine, et et heureusement, ces chanteuses avaient ce talent de pouvoir écrire avec beaucoup de distance et d'humour sur ce monde de la prostitution.
Et de décrire et de présenter leurs tarifs, puisque vous avez sorti de votre escarcelle ce fameux document que, pour ma part, j'ai découvert sur Internet, mais qui est d'époque, hein, des années 1890 ou 1900, les prix, le catalogue des prix d'amour de Madame La Pompe. Alors, je ne vais pas vous donner le détail parce que ce serait un petit peu inconvenant en pleine journée dans le hall du nouveau hôtel qui nous accueille. Néanmoins, vous pouvez savoir les différents tarifs de la dame en question, selon qu'elle vous fait une sucette normale ou bien une sucette à la menthe, dont la sensation de quasi-brûlure sur le bout du gland est tout à fait appréciable. Voilà, je vous laisse découvrir par vous-même en faisant une recherche sur un moteur de recherche sur Internet ce document assez savoureux dans sa verve, dont vous donnez quelques détails lors du Café Polisson.
Voilà, où en venant au Café Polisson, vous apprendrez beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit une dame dans Avignon qui m'a arrêtée en me disant « J'ai vu votre spectacle, j'ai appris beaucoup de choses et je regrette de ne pas les avoir apprises avant.
» Et je précise qu'effectivement, la sucette à la menthe, que ce soit la femme qui le fait à l'homme ou l'homme qui le fait à la femme, hein, après tout, eh bien, je vous confirme, chers amis, d'après mon expérience, que c'est magique. Voilà, et donc, eh bien, écoutez, je vous remercie Nathalie Jolie d'être venue nous parler de ce café Polisson dans lequel on apprend plein de choses et on en écoute d'autres encore plus belles à 18h à l'espace Roseau, rue Pétramal. Pour conclure sur cette interview, je vous propose d'écouter une chanson que vous interprétez lors du spectacle, que pour ma part, je connaissais dans la version de Damia, qui était une chanteuse des années 1920, je crois.
Oui.
Une chanson qui raconte un petit peu la condition de ces femmes dans les maisons closes. Une chanson que vous avez interprétée dans la maison de la radio, en fait, il y a quelques années, tout de suite en maison.
À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Et malgré que le travail fut rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons, leurs chansons. Sans voir beaucoup le paysage, bientôt je suis partie en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon en maison. Où qu'on aille, c'est partout du même. Les hommes veulent qu'on leur dise je t'aime, qu'ils soient fauchés ou pleins de pognon, bruns ou blonds. Il y en a tout de même qui ont de drôles d'idées. L'un d'entre eux, un soir de bordée, m'a dit « Que fais-tu là, voyons, viens, partons. Oublie un peu ces lieux infâmes, tu seras choyé, tu seras ma femme. Je t'offre mon amour profond, ma maison, sa maison. » Comme il avait une voix tendre, je l'ai suivi sans trop comprendre. Et bientôt, j'ai eu pour de bon un salon. J'ai eu des bijoux, des toilettes, des tas de gens me faisaient des courbettes quand je passais dressant le front. Quel aplomb! Amertume en mon cœur a jeté la brume. Je regrette.